Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le vélo et le trait de côte cette semaine. Il est 14h. Cette émission est enregistrée le lundi 24 mars 2025. Cette semaine, comme je vous le dis, le vélo et le trait de côte. Mais avant de filer sur les côtes, sur la côte et sur les côtés, des merci. Merci à vous qui nous écoutez, nous encouragez, qui commentez, qui likez, qui venez aussi, qui portez Cause Commune. Il y a plein de raisons de partir et choisir le vélo pour y aller, pour l'aventure, pour s'aérer, pour visiter, pour découvrir, se perdre, se trouver, partir pour fuir aussi une routine, des horaires, un écran, l'ennui, partir pour chercher une respiration, une intuition, une réflexion, partir pour croiser, voir, rencontrer les autres, des regards, des accents, des mains tendues, partir pour constater aussi, observer, tenter de comprendre, comprendre ce qui se passe, ce qui se change, puis proposer, témoigner, raconter. Quand le projet est de partir, parcourir toute la côte atlantique de la pointe nord à la pointe sud, de Biarritz à Ostende, c'est le cas de mon invité du jour. Mon invité du jour, Pierre Cassou Noguès, est philosophe, un philosophe de la fiction qui croit à la métaphysique d'un bord de mer. Il a fabriqué son vélo, il parcourt la façade atlantique. L'objectif de ce périple un peu fou, enquêter sur les effets de la crise environnementale. Et que voit-il? Qu'est-ce que cela lui inspire? Pourquoi choisir le vélo? Bonjour Pierre Cassou Noguès, merci d'être au micro avec moi aujourd'hui.
Bonjour à vous.
Pierre, vous êtes donc philosophe, hein. Vous vous présentez entre autres ainsi, je vous cite, « Je m'intéresse aussi à ce qui est peu ou mal conceptualisé dans les marges de la philosophie, la paresse, les phobies, les bords de mer, la mode et les vêtements. » Vous êtes en plein travail sur les bords de mer, racontez-nous quand même votre projet actuel.
Alors effectivement, c'est donc ce que j'appelle le projet littoral. Je parcours le littoral atlantique de Biarritz à Ostende, pour enquêter sur les effets de la crise environnementale sur le littoral. Comme on sait, le littoral est la région de France qui est la plus, sans doute la plus touchée par la crise environnementale sous différentes formes, la submersion, l'érosion des côtes, différentes formes de pollution, au plastique, pollution chimique avec les algues vertes. Enfin, c'est la crise environnementale, elle touche tout le littoral et donc je le parcours en vélo, dans une sorte d'enquête, mais d'enquête philosophique sur cette crise environnementale. Donc il y a à la fois, effectivement, c'est à la fois un parcours en vélo, et je m'intéresse au vélo comme objet, et en même temps, c'est utiliser le vélo comme un outil pour cette enquête, et pour moi, l'enquête n'aurait pas le même sens si je parcourais le littoral en 4x4.
Et est-ce qu'elle aurait le même sens si vous la parcouriez à pied ?
Alors non, justement, le vélo, il pose des problèmes tout à fait différents de celles de la marche à pied. Et c'est une question vraiment intéressante, c'est un thème qui m'intéresse. Dans la tradition philosophique, dans l'histoire de la philosophie, il y a toute une réflexion autour de la marche à pied, et qu'on trouve chez des auteurs comme Rousseau ou comme Nietzsche, et... Dans tous les cas, en fait, le marcheur est solitaire. Oui. C'est-à-dire le principe du marcheur ou l'image du marcheur dans la philosophie, c'est que le marcheur, il laisse tout, il part tout seul et il se constitue, en fait, dans cette marche à pied comme un sujet.
Oui.
Et un sujet autonome qui va avoir ou non des rapports à son environnement. Évidemment, c'est une abstraction, c'est une illusion, à savoir le marcheur, il utilise des sentiers qui ont été tracés par d'autres et qui sont déjà l'équivalent d'une route. Donc le marcheur, il s'inscrit en fait dans un réseau de coexistence, mais il l'invisibilise.
Oui.
Alors que le vélo, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que à la fois le vélo est un moyen de transport écologiquement responsable, comme on dit. Enfin, faire du vélo, utiliser un 4x4, conduire un 4x4. Mais d'un autre côté, le vélo, visiblement, exige ce réseau de coexistence. À savoir, pour faire du vélo, faut sinon des routes, au moins des sentiers qui soient bien entretenus. Et puis, le vélo, il est constitué avec une somme d'appareils qui sont fabriqués pas par moi, Et ailleurs.
Vous, le vélo sur lequel vous faites vos parcours, donc toute la façade atlantique jusqu'à la Manche, c'est un vélo que vous avez fabriqué?
Oui, alors j'ai essayé de jouer le plus possible la carte de la responsabilité et du bricolage, hein, du faire soi-même. J'ai essayé de la jouer le plus possible pour voir un peu jusqu'où on pouvait aller. Et donc, effectivement, hein, c'est un vélo que j'ai fait avec Louis Segret dans un atelier dans les Monts Pilates. C'est un vélo en bambou. Le bambou donc a poussé dans les Cévennes, pas très loin. Voilà, mon idée, hein, c'était d'être le plus possible dans l'idée d'une technologie, hein, c'est toute l'idée des low-tech, l'idée d'une technologie qu'on maîtrise et qu'on peut réparer. Ça, le vélo, c'est une technologie qu'on peut réparer. Et voilà, d'aller le plus loin possible dans cette direction. Et ce qui m'intéressait, c'était les moments où ça coince. Et ça coince parce que les pignons, évidemment, on ne peut pas les fabriquer soi-même. Voilà, est-ce que y a une question de prix, hein. Est-ce que j'allais acheter des pignons en Europe qui augmentaient le prix du vélo de beaucoup
et son impact carbone aussi.
Et sans, voilà. Ou bien est-ce que c'était des pignons qui venaient de l'autre bout du monde? Dans tous les cas, il y a toute une série de pièces que je ne pouvais pas fabriquer moi-même, qu'il fallait acheter ailleurs. Le vélo, il à la fois. On peut dire que c'est une low-tech, hein, une technologie basse, une technologie réparable, maîtrisable, et en même temps, il suppose en fait un monde industriel. Voilà. C'est ça qui m'intéressait, c'était cette ambiguïté qu'il ne peut pas y avoir de vélo s'il n'y a pas des industriels qui fabriquent des pignons, toutes sortes de transmissions, et ça implique qu'ils sont forcément loin parce qu'il faut en fabriquer beaucoup pour que ça coûte, pour que ce soit un prix raisonnable. Mais ce vélo, donc, il a pour moi cette ambiguïté, hein, à la fois du bambou, qui c'est une belle matière en fait, bon, en plus qu'il y a des propriétés qui se prêtent assez bien au vélo, mais les attaches du bambou sont en carbone, toutes les parties, hein, les composants du vélo viennent d'ailleurs. Et c'est cette ambiguïté dans le vélo qui m'intéresse, hein, le fait que c'est un objet technique qui nous vaccine, si l'on peut dire, de la pureté qui s'associe au marcheur, c'est-à-dire la pureté, l'autonomie. Le marcheur, et c'est vrai encore dans des livres de philosophie contemporaine, hein, le marcheur se voit comme un sujet autonome et libre, qui va où il veut. Eh ben, justement,
ce qui n'est pas le cas du cycliste, il n'est pas autonome et libre.
Eh ben, le cycliste, il n'est pas autonome et libre.
Parce qu'il y a cet objet.
Parce qu'il y a cet objet, que le cycliste, il sait que si la chambre à air, s'il n'a pas de chambre à air de secours, il ne pourra rien faire lui-même. Il le sait. Il sait aussi que les sentiers, il doit se méfier. Que les sentiers, parfois on peut rouler, parfois on ne peut pas rouler avec le vélo qu'on a. Donc non, le cycliste, il sait qu'il est dans un réseau de coexistence. Après, effectivement, hein, vous avez tout à fait raison, et c'est une des choses aussi qui m'intéresse dans le vélo, hein, c'est qu'il y a un vécu du vélo.
Ouais.
Et que le vécu du vélo, c'est la liberté.
Hein. Ouais.
Et alors, le vécu de la liberté peut être trompeur, hein, et je pense par exemple, vous savez, à ces publicités, je crois que c'est pour Gauloise dans les années 50, qui voyaient la cigarette comme une marque de liberté, et c'est quand même trompeur.
Mais, et puis il y a toutes les pubs sur la voiture qui nous disent accéder à la liberté avec 4 roues et un volant.
Absolument. À la fois, le vélo, quand c'est pas le vélo électrique, hein, le vélo musculaire, comme on dit, suppose un effort musculaire. On est dehors, on est donc au milieu des odeurs. Les odeurs en vélo sont souvent très présentes. Hein, quand on traverse une forêt en vélo, on sent les odeurs parce qu'on est en hyperoxygénation, donc on respire beaucoup plus. Et donc, on est à l'extérieur, hein, on est dehors, on n'est pas enfermé. Et en même temps, on va beaucoup plus vite que les allures humaines habituelles,
oui.
C'est-à-dire la marche, la course, on va beaucoup plus vite. Et je pense que cette présence à l'extérieur, mais en même temps plus rapide que les allures humaines, bon, pour le corps, pour lesquelles le corps a été constitué, hein, qui nous sont en gros câblés dans le cerveau, eh bien, c'est cette disjonction, cette ambiguïté, hein, qui nous donne ce sentiment de liberté. Et là encore, hein, cette disjonction, elle vient d'où? Eh bien, elle vient de ce que le vélo est justement ambigu. Il a un côté qui nous lie aux allures habituelles du corps humain, hein, la marche, la course, on fait le même effort. On a aussi ces mêmes endomorphines qui nous viennent que pendant la course. Et en même temps, justement parce qu'on est, je dirais pas armé, mais équipé de cette technologie, eh bien, on va plus vite. Donc, c'est là encore, c'est toujours cette ambiguïté qui m'intéresse.
Et est-ce que vous êtes un cycliste qui part pédaler, un philosophe qui part pédaler? Comment est-ce que vous vous définiriez si vous deviez vous définir?
Dans ce projet, comme un philosophe qui utilise le vélo, c'est-à-dire que voilà, le but, il est vraiment dans un travail philosophique. Que pour moi, en fait, le problème central de la philosophie aujourd'hui, c'est de pouvoir parler à la fois des mutations technologiques et de la crise environnementale, sans avoir de domaine empirique. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que, d'une certaine façon, lorsque je parle de la submersion, du niveau de la mer qui monte et qui va, on le sait, engloutir une partie du littoral, si vous voulez vraiment savoir en quoi la submersion consiste, il faut inviter un océanologue ou un climatologue. Si vous voulez savoir quelle sera notre réaction à la submersion ou quel est notre rapport au vélo, combien de temps on fait du vélo, je ne sais pas, il faut inviter un sociologue. Le philosophe, il n'a pas de domaine empirique. Il n'y a rien dont il puisse dire, voilà, je suis un spécialiste, ça, je le connais. Voilà, ça, c'est mon domaine, j'ai des données. Le philosophe, il n'a pas de domaine empirique. Et alors, comment la philosophie ou les philosophes peuvent-ils parler de la crise environnementale et des mutations technologiques s'il n'y a rien qui sache en particulier, et en même temps, comment peuvent-ils ne pas en parler? Je veux dire, ne pas en parler, c'est s'enfermer dans une tour d'ivoire, c'est faire peut-être de l'histoire. Les mutations technologiques et la crise environnementale sont des préoccupations majeures, centrales. Si la philosophie n'en parle pas, elle ne vaut rien, on pourrait dire. Et en même temps, comment peut-elle en parler? Et donc, c'est cette question qui est au centre de mon projet littoral. Essayer de trouver un moyen pour la philosophie ou un philosophe ou les philosophes de faire quelque chose sur la crise environnementale qui soit pas de la conversation de bistrot.
Oui. Mais alors, comment en parler et pourquoi? C'est un peu la question que je voulais vous poser. Vous commencez à y répondre. C'est quel est le rôle du philosophe dans ce contexte? Donc, vous êtes ni océanographe, ni sociologue. Donc, il y a une approche qui est justement empirique, c'est ça?
Oui.
Malgré tout, vous y allez pour constater, pour observer. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous constatez et qu'est-ce que vous observez? Et la question suivante, c'est qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion? Alors, pour les auditeurs auditrices, là, quand on enregistre cette émission, vous êtes à la moitié ou au tiers de votre périple. Là, vous avez fait, en gros, Hendaye-Saint-Nazaire, c'est ça?
Voilà, c'est ça. J'ai fait Hendaye-Saint-Nazaire, ce qui est là. Alors, j'ai fait des détours, donc ça fait quand même pas mal de kilomètres, mais c'est la partie la plus facile du parcours, parce que c'est tout plat, enfin c'est plat, il y a un peu de vent, mais le littoral breton, évidemment, a beaucoup plus de dénivelé. Alors, il y a plusieurs questions. Qu'est-ce que je constate? En fait, voilà, je suis parti, je dois dire, j'ai commencé mon périple très pessimiste.
Oui.
Très pessimiste et d'une certaine façon, il y a de quoi l'être. Il n'y a pas de doute quand on regarde dans les dangers, les menaces pour le littoral. Une chose dont je n'ai pas parlé, ce sont les feux de forêt dans les Landes. J'ai traversé autour de Biscarrosse. On traverse la zone qui a brûlé en 2022. Ce sont
des hectares.
Des hectares. Non seulement des hectares, mais c'est 30 000 hectares.
Ouais.
30 000 hectares, c'est un rectangle de 30 km sur 10 km. Ouais. Quand on passe en vélo, ça fait loin. Enfin, moi, je n'ai pas fait dans la longueur des 30 km, mais bon, puis c'est des bouts un peu séparés. Mais ça veut dire que c'est très, très long en vélo. On roule pendant longtemps dans une zone qui est complètement ravagée. Donc, j'étais parti assez pessimiste, en fait. Évidemment, je fais les bords de mer parce que j'adore le bord de la mer et le tourisme balnéaire et le fait d'aller à la plage l'été et que c'était les sports nautiques. Voilà, j'adore. Mais en me disant, voilà, c'est un monde qui est en train de disparaître. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ça aussi, c'est qu'il y a, Il y a beaucoup le littoral balnéaire, hein, le littoral des stations balnéaires, là où on va passer ses vacances. Grosso modo, en fait, il se fixe à la fin du 19e siècle. Et moi, je suis parti avec l'impression que ce monde balnéaire, ce littoral, il était en train de se terminer. C'est-à-dire que, d'une façon ou d'une autre, et c'est pas faux non plus, on va devoir changer notre façon d'appréhender le littoral, de vivre sur le littoral. Et donc, ce monde ben, des vacances, tel qu'on les connaît, il est en train, il va devoir se transformer. On pourrait dire comme la montagne.
Oui, c'est hyper intéressant. Il y a toute une question, là on est en sortie, il y a toute une question sur que vont devenir nos montagnes avec la fin de la neige, etc. Et donc de tout ce tourisme-là. Et là, vous êtes en train de nous dire, la station balnéaire touristique telle qu'on l'a connue pendant tout le XXe siècle, d'après ce que vous voyez, d'après ce que vous dites, elle aussi en train de disparaître.
Elle va devoir se transformer parce ouais. que, en gros, elle va être submergée. Ouais. Elle va être submergée plusieurs fois par an et on ne vit pas de la même façon dans un endroit qui est submergé plusieurs fois par an.
Alors, il est 14h18. Vous savez quoi? On va se faire l'impasse de la pause musicale parce que c'est pas très grave, c'est intéressant. On passe l'impasse de la pause musicale. On est sur Cause Commune, c'est Rayon Libre. On est avec Pierre Cassou-Noguès, qui est philosophe et qui enquête actuellement sur les effets de la crise environnementale sur la côte atlantique. Il fait ça à vélo et il nous raconte. Donc oui, je vous redonne la parole, pardon Pierre.
Oui, bah donc je disais hein, que je suis parti très pessimiste. Et en fait, le fait de parler avec des gens qui travaillent sur ces questions, ça m'a rendu beaucoup plus optimiste. J'ai rencontré des gens qui m'ont montré quand même que il y aurait sans doute des façons de vivre et finalement de vivre bien avec la crise environnementale. Et justement, un livre que je lis pendant mon voyage, hein, qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est un livre de Damien Delorme, Un autre rêve américain, et qui, en lui, a parcouru 10 000 km en vélo. Donc. Et il explique lui aussi hein, qu'en fait, il est devenu beaucoup plus optimiste à travers ce périple. C'est que des gens qui finalement travaillent sur ces modes de vie plus responsables, plus économes aussi, ben justement, ils montrent qu'en fait, on peut vivre, on pourra vivre dans la crise environnementale et finalement que ça ne tient qu'à nous que de vivre bien. Il y a aussi, ça répond, je voulais en parler tout à l'heure, il y a aussi une chose, à mon avis, que doit faire la philosophie. On parlait tout à l'heure du fait que la philosophie, c'était pas la sociologie, c'était pas non plus une science comme la climatologie. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il avait à dire, le philosophe de la crise environnementale? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Eh ben, l'une des choses que le philosophe peut faire, c'est aussi montrer qu'il y a des alternatives, ouais. des façons de vivre autrement. Et pour moi, le rapport à la fiction, dans la philosophie, il est là. C'est-à-dire que la philosophie n'a pas de domaine empirique. La philosophie, elle se lit pas comme un bulletin météorologique. La sociologie, d'une certaine façon, peut-être que ça peut se lire comme ça. La philosophie, ça peut pas se lire comme ça. Ça a pas ce rapport à la réalité. La philosophie, elle est dans la fiction. Mais dans la fiction, elle a la capacité à proposer des alternatives. Et l'une des raisons pour lesquelles, de la crise environnementale, pour lesquelles on est dans cette situation-là, c'est en fait le dogme, depuis les années 80, et exactement depuis Margaret Thatcher, cette idée, il n'y a pas d'alternative. Ouais. On ne peut pas vivre autrement. On est dans cet entonnoir. Et la philosophie, elle doit justement développer, montrer qu'il y a des alternatives, qu'il y a d'autres façons de vivre. Et le vélo, c'est aussi ça. Le vélo, c'est montrer que ben, finalement, je parcours ce littoral en vélo et c'est pas que la voiture me manque. On est trop dans cette idée que, je veux dire, le désir, disons-le comme ça, notre désir supposé, hein, il est d'avoir une grosse bagnole et de parcourir les plages en faisant plein de fumée. Eh ben, évidemment, c'est notre désir à tous.
On désire pas forcément plein de fumée, voilà. Mais il se trouve qu'on en fait.
Mais c'est quand même l'image que il suffit de regarder. Bah hier, il y avait un match de football. Ouais. Hein, il suffit de regarder les publicités à la mi-temps. Mmh. C'est ce qu'on veut nous donner comme désir. Et justement, parcourir le littoral en vélo, c'est aussi raconter une autre histoire où la voiture, elle me manque pas. que ben voilà, je suis content de le faire en vélo plutôt qu'en voiture, parce qu'en vélo, on voit d'autres choses, etc. Donc c'est aussi une des choses que peut faire la philosophie, c'est montrer qu'il y a des alternatives, montrer qu'il y a d'autres désirs, montrer qu'il y a d'autres façons de vivre.
Parce que pour revenir à... Je dirais assez concrètement sur votre périple, en tout cas quand je regarde sur Mastodon pour préparer l'émission, ce que je trouve intéressant, c'est que votre bord de mer, il semble être une frontière. Quand on regarde d'un côté, c'est l'infini, c'est le sauvage, c'est l'horizon, et de l'autre, c'est l'homme, les murs, le combat pour protéger ce qui peut l'être. Ça vous inspire quoi, ces murs d'un côté, ces digues, et puis de l'autre, l'horizon, y a une sorte, c'est une sorte de frontière, vous êtes sur le fil rouge ?
Oui, non, c'est une bonne question. Hein. Donc je fais, je fais des chroniques pour Philosophie Magazine.
C'est comme ça que je vous ai retrouvé.
Et ces photos sur Mastodon, je le vois comme une sorte de contre-atlas ou d'anti-tourisme.
Oui.
C'est-à-dire, ben, si vous ouvrez un guide de voyage, vous allez sur un site de voyage, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des belles photos du littoral, la mer bleue. Et d'une certaine façon, ces vacances qui nous sont proposées, cette vision du littoral, elle implique une certaine façon de vivre. Et ben justement, cette façon de vivre où on prend l'avion, on prend la voiture, on fait de la fumée, on... Et ce qui m'intéresse, c'est de faire une sorte de contre-atlas, hein, ou un anti-tourisme, de prendre le revers de ça et de montrer sur le littoral là où ça coince.
Ouais.
Là où on croit que c'est un jardin le long de la mer, mais en fait, c'est une dune. Et si la dune est débordée par la vase, par la vague, il y a tout un lotissement qui va être inondé. Ouais. Voilà, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, hein, par exemple, dans ces digues cachées, hein, c'est sur l'île de Ré, autour des portes en Ré, hein, qui est un endroit qui est exactement au niveau de la mer. Hein, l'île de Ré, c'est un des endroits les plus menacés. On a construit toute une série de digues qui réutilisent certaines fortifications de la Deuxième Guerre mondiale, le mur de l'Atlantique. Et ce qui est pour moi, voilà, c'est intéressant de voir que on se fortifie comme et avec les fortifications qui ont été utilisées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein. C'est comme si nous étions de nouveau en guerre contre un ennemi invisible. C'est-à-dire, je reprends la formule, hein, la formule très célèbre pendant la pandémie, hein, la pandémie comme une guerre contre un ennemi invisible. Et la pandémie, ce n'était pas une guerre contre un ennemi invisible, c'est un virus qui parcourt la population. Ce n'est pas une guerre et il n'y a pas d'ennemi. Le virus, ce n'est pas un ennemi. Et là encore, hein, le fait de réutiliser pour se protéger de la montée des eaux le mur de l'Atlantique, c'est considérer finalement la crise environnementale qu'une guerre.
Une guerre contre l'océan.
Un nouvel ennemi qui ne serait pas invisible cette fois-ci, qui est l'océan. Et je pense que là, on a une grande difficulté à finalement accepter le non-humain. C'est-à-dire le fait que le virus, qui est une réalité, hein, c'est pas la question, ou l'océan, ce sont pas des ennemis. Ce sont des phénomènes physiques, des phénomènes biologiques qui ont leur logique propre, qui n'ont pas d'animosité vis-à-vis de nous, et qui ont juste leur logique propre et avec lesquels il s'agit de négocier. Ça, c'est une première chose. Hein, et la deuxième chose sur laquelle je veux insister, et que justement, une des choses que je trouve mon périple me fait comprendre, hein, c'est cette idée de fortification. Cette idée que finalement, qu'est-ce que ça veut dire se fortifier, hein ? Ça veut à la fois dire devenir plus fort et ça veut dire s'entourer de murailles. Et je pense qu'il y a un vrai problème dans la conjonction de ces deux idées. Hein, le fait que s'entourer de murailles, ce soit devenir plus fort. Et on peut dire l'automobiliste, dans ses 2 tonnes de métal, il se fortifie comme dans un bunker, hein, il s'enferme et on croit être plus fort. Et certainement que les digues, elles posent, elles sont parfois nécessaires, mais elles posent des problèmes. Hein. L'un des problèmes qu'elles posent, c'est que quand la digue casse, quand la digue est submergée, ça représente un vrai danger parce que du coup, on a une montée très, très rapide. Hein, et les morts qu'il y a eu dans la tempête Xynthia, c'est ce problème. C'est-à-dire, c'est des digues qui ont été dépassées.
Ouais.
Donc, on a une montée de l'eau très rapide, alors qu'autrement, sur le bord de la mer, on a une montée de l'eau lente. Hein, c'est la vitesse de la marée. Bon. Et donc, voilà, sans doute qu'on va être amené à négocier avec ces éléments, hein, plutôt qu'à essayer de se fortifier contre ça. Donc ça, par exemple, c'est vraiment quelque chose, voilà, que je comprends au fur et à mesure de ce périple, hein, de ce périple en vélo à une vitesse, eh bien, une vitesse assez lente et en contact, on peut dire, avec les éléments du paysage.
Alors, chers auditeurs, chers auditrices, merci Pierre. On va s'écouter la chronique d'Abel, parce qu'il doit être 14h25. Ben, Abel, il est un peu comme vous, Pierre. Il pose des réflexions, il nous invite à réfléchir, parfois à agir. Abel Guggenheim, à toi la parole.
Bonjour. Comme la semaine dernière, je voudrais aujourd'hui vous parler d'une circonstance dans laquelle les automobilistes ont clairement fait des progrès. L'introduction dans la réglementation française de l'obligation des doubles sens cyclables dans les zones 30 date du milieu de l'année 2008 et devait être effective à la mi-2010. À Paris, c'est 215 km de voies qui ont dû être ainsi équipées et signalées. On ne félicitera jamais assez la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris pour le travail effectué pour que cette réglementation soit implantée sur le terrain en 2 ans dans des conditions acceptables. Et ce, d'autant plus que pendant cette période, il n'a pas manqué de beaux esprits pour clamer que cette disposition était dangereuse et allait provoquer des morts par centaines, par milliers, par dizaines de milliers, et que les maires techniciens auraient ses morts sur la conscience. Rien là de très nouveau. Les bourgmestres belges avaient reçu les mêmes menaces et insultes lors de la mise en place quelques années auparavant sous la dénomination SUL, sens unique limité, d'une réglementation analogue dans le code belge. Une étude effectuée sur ces SUL avait pourtant bien conclu que la mise en place de cette réglementation ne s'était accompagnée d'aucune augmentation d'accidentologie, résultat confirmé par une étude détaillée menée à Paris entre avant et après la mise en place des 215 contresens cyclables en 2008-2010. Ces études confirment ce que la logique explique. Il est moins dangereux pour les cyclistes de croiser une automobile que de se faire doubler par elle, avec le risque de se faire frôler par un conducteur ou une conductrice ayant mal évalué la largeur nécessaire. Comme d'autres cyclistes, pour certaines largeurs de voirie, je préfère, lorsqu'il existe 2 itinéraires parallèles possibles, prendre dans chaque sens plutôt une rue à contresens que dans le sens de la circulation générale. On lit encore aujourd'hui les mêmes âneries, souvent accompagnées de termes peu flatteurs pour les personnes qui ont imaginé cette réglementation, parfois accompagnées de demandes impératives de retirer ceux qui sont en place. Mais j'observe, et je pense que si vous circulez régulièrement à Paris, vous l'observez aussi, depuis quelques années, les automobilistes circulant à Paris se sont habitués à cette réglementation et s'y adaptent. Lorsqu'une automobile arrive face à moi à une vitesse que j'estime excessive, lorsqu'elle ne se sert pas suffisamment à mon goût pour que nous puissions nous croiser dans des bonnes conditions de sécurité, je me place délibérément en milieu de la voie jusqu'à éventuellement obliger l'automobiliste à s'arrêter complètement si nécessaire. Eh bien, je dois remarquer que ça m'arrive de moins en moins souvent, que les automobiles arrivant face à moi ralentissent et se serrent presque toujours correctement. Autre observation, lorsque je m'engage en contresens dans une rue occupée par des automobilistes arrêtés au feu rouge, je vois maintenant fréquemment les automobilistes tourner leur roue vers la droite et avancer un peu pour me laisser la place de passer. Oui, je le redis, les choses avancent dans les esprits. Il reste cependant, bien sûr, encore bien des choses à faire. Nous en parlerons lundi prochain et les suivants.
Cause commune, la voix des communs.
Merci, c'était Abel Guggenheim. Une dernière question pour vous, Pierre Cassou Nogues. Après votre forêt, The Forest is Burning, la suite, c'est quoi? C'est The Coast is Drowning?
Non, donc effectivement, The Forest is Burning, c'est un article hein, que j'ai écrit à propos des feux dans les Landes oui. en 2022. Hein, et ce projet, voilà, sur le littoral, est effectivement la suite d'une certaine façon. Et l'idée ben, d'essayer de faire le point, en quelque sorte, ou de donner un panorama des effets, des conséquences de la crise environnementale sur le littoral, et en même temps, d'essayer d'en faire un panorama joyeux. Et donc, il y a une sorte de paradoxe hein, qui me préoccupe beaucoup, c'est qu'à la fois, il ne s'agit pas de nier la crise environnementale, et il faut en constater les effets et les constater lentement à la vitesse du vélo. Et en même temps, eh ben j'espère réussir à d'abord à y prendre plaisir à oui. ce périple en vélo et à que le lecteur ne finisse pas le livre déprimé, avec une forme d'espoir dans ce qu'on peut faire.
Auditeur, auditrice, ce rayon libre est terminé. Bah, volez un moment dans votre journée, un moment pendant lequel vous avez le droit d'oublier les mauvaises nouvelles de ce monde. Volez ce moment en volant sur un vélo. Plus que jamais, hein, une journée sans pédaler est une journée gâchée. À la semaine prochaine. Pierre, merci beaucoup pour votre temps et vos chroniques. On peut les retrouver sur Philosophie Magazine. Et ce projet va faire l'objet d'un livre, probablement.
Oui, j'espère, oui.
Merci beaucoup. Restez sur 93.fm. C'est Cause Commune. Il est 14h30. Merci de votre fidélité. Merci pour vos messages et vos commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Rayon Libre.